La Covidienne. Du lundi au jeudi, 30 minutes d'actu, virale et collégiale.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans La Covidienne sur les ondes de Radio Campus Angers. On est à nouveau ensemble pendant 30 minutes pour discuter de l'actualité locale. Ce soir, c'est Léo qui s'est entretenu avec Valentin et Melvin, deux étudiants en management du sport à l'IFEPSA. Au programme, ils présentent leur projet de week-end sportif à destination de leurs camarades de deuxième année entre Escape Game et sport d'extérieur. En deuxième partie d'émission, c'est Léo toujours qui nous emmène en direction de l'Irlande du Nord. Depuis plusieurs jours, des affrontements s'y déroulent sur fond de Brexit et de résurgence des conflits religieux. Et je vous propose qu'on écoute tout ça sans plus tarder. Très bonne émission à toutes et à tous.
Depuis le premier confinement du mois de mars 2020, les événements sportifs à un niveau amateur qui se sont tenus dans de bonnes conditions se comptent sur les doigts d'une main. On sait que ces moments dépassent le cadre sportif et ce sont des moments de sociabilité parfois incontournables. Pourtant, quelques initiatives réussissent à se maintenir. C'est le cas d'étudiantes et étudiantes en troisième année de management du sport à l'IFEPSA, l'Institut de formation en éducation physique et sportive d'Angers, hébergé par l'Université catholique de l'Ouest. Ils sont parvenus à organiser un week-end sportif à la fin du mois d'avril à destination de leurs camarades de deuxième année. Et on reçoit pour parler de tout ça Valentin et Melvin. Bonjour.
Bonjour Léo.
Bonjour.
On va bien entendu parler de ce projet plus en détail, mais d'abord on va revenir un petit peu sur la situation sanitaire du moment et votre formation. Concrètement, qu'est-ce qu'on apprend en licence de management du sport ?
Alors en management du sport, donc c'est assez large. On va apprendre du droit, on va apprendre tout ce qui est juridique au niveau du sport, et également le management, la gestion de projet. En première année, on a fait beaucoup de sport également pour faire de la pratique et bien connaître ce qu'est le sport et être des experts, si on peut dire ça. Après, ça s'étend sur beaucoup de choses. Melvin, si tu penses...
Oui, on fait aussi beaucoup de marketing depuis la licence 2. Également, on a quelques petites bases en commerce du sport. Donc, c'est vraiment une filière qui touche à plein de secteurs avec de multiples débouchés. Et c'est ça qui est super intéressant.
Et vous vous spécialisez après en master dans un domaine précis ou...
Ouais, alors moi personnellement, je vais me spécialiser en communication. Donc je vais intégrer un master communication dans une nouvelle école. Après, ça peut être de l'événementiel, ça peut être assez varié, du marketing aussi.
Moi, du coup, je suis plus sur un master en marketing communication.
Et au niveau des débouchés, c'est des opportunités dans le milieu sportif professionnel, la gestion des structures amatrices, des associations ?
Ouais, ça peut être ça. Bah, ça peut être aussi travailler dans un club, ça peut être travailler dans une grosse entreprise de distributeur sportif, gérer de la communication ou gérer des événements liés à des entreprises. Donc c'est assez large également, pour le marketing c'est également très large, donc voilà, c'est dans tout ce qui est dans le secteur sportif en tout cas.
Ouais, c'est assez riche.
Ouais, c'est ça.
Comment ça s'est passé à l'école avec les restrictions sanitaires, comment ça s'est adapté ?
Alors nous, étant en licence 3, on n'a plus beaucoup de cours. On a compris qu'en fait l'IFEPSA a donné plus de priorité aux premières années, ce qu'on comprend en soi parce que sinon ils n'auront pas du tout connu ce que c'est un campus et les universitaires tout simplement. Donc nous, on n'a plus trop de cours depuis un an et demi. Maintenant, on est plus en visio et on finit notre année. Et voilà. Après, on va plus trop revenir aux cours, en fait.
Il nous reste quelques cours en présentiel sur tous les sports. Donc là, on fait notamment du paddle et du VTT. On revient pour faire les cours en présentiel de sport. Mais tout ce qui est cours théorique, on est surtout en visio.
Et comment vous vivez cette situation tous les deux ?
Ouais, c'est assez compliqué. Faut pas décrocher. Faut garder le tempo parce que sinon c'est sûr que si on lâche, eh ben on peut avoir des difficultés derrière et puis des difficultés aussi pour la suite de notre cursus scolaire, que ce soit pour trouver un master ou pour trouver une entreprise. Imaginons si on fait un master en alternance, donc c'est sûr qu'il ne faut pas décrocher puisqu'on est forcément moins motivé devant un ordinateur qu'en présentiel avec un prof devant soi, quoi.
Oui, c'est vrai que l'année, c'est un peu compliqué parce que déjà on voit pas les profs. Aussi, l'université, c'est aussi bien parce que on se fait des contacts au niveau des élèves aussi. Donc là, on se voit beaucoup moins. Donc les semaines où on peut revenir en cours, revoir tout ça, on est très content. Pour le sport, souvent, nous, c'est grâce au sport qu'on peut revenir en cours. Donc ça nous fait plaisir de pouvoir revenir quand même. Mais on fait avec quand même, on s'adapte.
Et vous arrivez, dans vous et les autres étudiants de la formation, à trouver des entreprises qui veuillent bien vous recruter pour des stages où c'est très compliqué aussi de ce côté-là?
Alors ça dépend, c'est vrai qu'il y en a, c'est compliqué, mais on sent quand même qu'il y a des entreprises qui aident pas mal à les alternances et les stages. Donc les stages, je crois que dans notre classe par exemple, tout le monde a trouvé, à part une ou deux personnes qui ont été aidées, au final ont trouvé. Donc je crois que ça se fait quand même, c'est compliqué, mais j'ai l'impression que les entreprises ont quand même pris conscience du cas et ça s'est quand même assez bien passé cette année nous, pour notre stage.
Ouais, il y a une démarche qui a été assez longue quand même, entre le début où on cherchait vraiment des stages et la fin où on trouvait un stage, il y a eu quand même un délai assez long, mais c'est pareil, il fallait pas décrocher et puis au final on a tous fini par trouver un stage, pratiquement.
On va revenir sur le projet à présent. En résumé, ce sont des L3 de management qui organisent un week-end sportif en extérieur à la fin de ce mois d'avril. Donc, les heureux élus devront faire un escape game et pratiquer différents sports de nature dans tout le département. Qu'est-ce qui vous a poussé à organiser cet événement? Qu'est-ce qui vous a motivé?
Alors déjà, ça nous a motivé parce que c'est une grosse expérience qu'on peut acquérir grâce à l'école. Mettre en place un événement pour une cinquantaine de personnes avec, en partant de zéro, en devant tout créer, tout organiser avec différentes commissions de A à Z, c'était vraiment hyper intéressant. Ça peut nous permettre simplement d'avoir d'expérience pour le futur et dire nous avons fait ça à l'IFEPSA, donc on a déjà une expérience dans l'événementiel. Donc déjà de cette part là c'est hyper intéressant. Et puis travailler en groupe, travailler avec les autres élèves, avec les profs, c'est vraiment quelque chose qui peut être bénéfique pour notre futur.
Puis ce qui nous motive aussi d'autant plus, c'est que c'est un concept qu'on a créé nous-mêmes de A à Z, on nous l'a pas imposé, donc ça c'est vraiment une motivation qu'on a été chercher, puisque le concept Escape Get Nature, c'est vraiment un concept que nous avons créé, donc forcément la détermination elle est double.
Ah, et puis ça a pas forcément été évident de tout planifier, j'imagine qu'il y a eu beaucoup de rebondissements dans l'organisation, ouais. Ne serait-ce que pouvoir se réunir, il y a dû avoir des moments compliqués niveau organisation.
Oui, c'est ça. Bah, au début, quand on a commencé à le créer, on était en cours. Donc, heureusement, on a pu commencer à se mettre d'accord en présentiel, entre guillemets. Après, dès que c'était un peu lancé, on faisait beaucoup de réunions en visio, comme un peu tout le monde en ce moment. On a quand même réussi à se mettre d'accord. Une fois que tout était planifié, c'était plus facile parce qu'on était réunis en commission. Donc, moi et Melvin, qui faisons partie de la commission communication, du coup, on a pu se regrouper entre nous à 5-6. Et du coup, c'était plus facile que tout le groupe de 40. Une fois que tout était planifié, c'était quand même plus simple. Heureusement qu'on a pu faire tout ce travail en présentiel dès le début.
Comment vous l'avez financé? Vous avez réussi à récupérer 9000 euros de budget, il me semble.
Ouais.
C'est bien ça.
Ouais, bah du coup, afin de pouvoir financer ce projet, on a mis en place un système d'autofinancement, donc à l'aide de nombreuses ventes de produits locaux, notamment des saucissons, des madeleines, des brioches. Et grâce à cette implication de chaque étudiant à vendre de son côté, malgré le Covid, hein, forcément le porte-à-porte a été un peu plus difficile, mais ça l'a fait quand même au final. Chaque étudiant s'est vraiment appliqué et puis on a pu financer, grâce à l'autofinancement, ce projet à hauteur de 9000 euros.
Alors, les épreuves entre guillemets du week-end, on a un escape game, du VTT, de l'escalade, du kayak. Vous pouvez peut-être rappeler le concept de ce que c'est qu'un escape game et comment vous l'avez mis en œuvre de votre côté?
Oui, l'escape game, c'est un jeu d'énigmes où il faut trouver un petit peu l'issue d'un parcours à travers différentes questions de réflexion, si je pourrais dire, mais aussi à travers des performances sportives. Donc c'est vraiment ce qu'on a voulu faire en intégrant à part entière le VTT, l'escalade et le kayak à l'escape game, pour donner un petit peu le côté nature, sans oublier, comme je disais, la réflexion, avec des énigmes qui seront posées au L2, et le cumul des deux permettra de rapporter des points qui pourront faire gagner une équipe.
Et il y a des sports d'équipe qui sont prévus? Le VTT, ça va se passer par équipe sous forme de relais ou...
C'est ça.
Vous pouvez nous en dire plus?
Oui, en fait, des groupes ont été formés, donc des groupes de 3 à 4 élèves, enfin de L2, donc le classement se feront par équipe. Toutes les épreuves se feront par équipe. Par exemple, en VTT, ils vont partir avec un accompagnateur qui sera un L3, donc il y a 8 groupes de souvenirs, avec un accompagnateur de L3 par groupe. L'accompagnateur sera juste là pour suivre les groupes qui vont devoir s'orienter tout seuls en VTT, aller le plus vite possible, trouver les énigmes le plus vite possible. Donc c'est à la fois une course de rapidité, mais également une course de réflexion. c'est un combiné de tout ça qui fait qu'on voulait se rapprocher le plus possible de l'escape game et en même temps, comme disait Melvin, ramener un côté sportif parce que c'est quand même le gros de notre enseignement, tout simplement.
Tu nous disais tout à l'heure en off que ça ressemblait un petit peu à Koh-Lanta.
Oui, alors on s'est inspiré de ça en fait, pour tout vous dire. On a donc décidé de ce projet-là au tout début, lors de nos premières réunions, où de souvenir il y avait 8 groupes de 6 personnes qui ont chacun des groupes a proposé une idée. Donc certains ont proposé des idées basées sur Koh-Lanta par exemple, ou sur d'autres jeux, je dis au hasard les 12 coups du midi par exemple. Et on a tous voté pour un groupe, pour une idée principale, et au final on s'est entendu sur la fusion de deux idées qui étaient la nôtre, notre groupe qui était basé sur un escape game un peu façon Koh-Lanta, donc sauvage, etc., et l'idée d'un raid vélo. Donc en fusionnant ces deux choses là on est arrivé à l'IFEPS APPN, donc en créant un raid vélo kayak avec des énigmes en relais. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé à ceci, et on en est plutôt content d'ailleurs.
Et ça va se passer où, toutes ces épreuves?
Alors on part jeudi d'Angers, et on va se rendre jusqu'à Saumur à vélo, donc dans toute cette région-là, donc on reste dans le Maine-et-Loire. Comme je l'ai dit, c'est un raid vélo, la direction va se dépendre des groupes s'ils réussissent à bien se diriger, tout simplement, mais c'est dans la région entre Saumur et Angers.
Et vous aviez songé des fois, quand vous avez vu que la situation sanitaire s'améliorait vers septembre-octobre, à faire des sports d'intérieur, ou ça a été toujours que des sports d'extérieur qui ont été envisagés?
Alors non, même au début, déjà on a commencé à créer le projet, on était déjà dans cette situation-là, et ça, on n'a pas du tout, ça a pas été, le but c'était vraiment de créer quelque chose d'extérieur, quelque chose où nature, etc. Et ça nous ramène un peu à notre concept d'éco-responsable. On a voulu créer un événement 100% éco-responsable, donc créer un événement à l'intérieur, c'était pas du tout dans notre idée de base. C'est pour ça du kayak. Au début, il y avait également l'idée du sport de l'escalade, par exemple, des choses comme ça. Ça a toujours été dans l'extérieur.
Mais c'est vrai que dès le début, on a voulu donner un peu une autre dimension au côté escape game qui peut souvent se trouver en intérieur et lui donner une dimension un peu plus gigantesque en l'instaurant carrément en pleine nature avec des activités pleinement extérieures.
Tu viens de le dire, Valentin, c'est un événement éco-responsable, pas d'émissions de CO2, pas de déchets et nourriture bio.
Alors c'était le travail de la commission restauration. Donc c'était l'une des idées qu'on a eues en collaboration donc avec notre suiveur, donc Cédric Pluchon. On a récupéré, il y a eu la création d'un repas prévu vraiment qui a été créé pour en se disant on va prendre ça et pas ça, pour vraiment rester dans ce concept d'éco-responsable et de bio. Donc c'est la commission restauration qui a fait ça.
Oui, c'est vrai qu'on s'est tenu à prendre des produits qui détenaient le label bio. Pour ça on a des repas qui sont basés sur des petites pochettes pick-up dans des paquets carton recyclables. Donc ça c'est vraiment intéressant sur ce côté-là. Et puis l'ensemble des repas comme Valentin disait qui a été acheté en magasin bio.
Et quel est le but sous-jacent de cet événement sportif? Ça dépasse la pratique sportive, c'est souder une promotion, la préparer pour l'an prochain.
Bah, on voulait aussi, nous aussi, en plus de réaliser un événement sportif, s'inscrire dans un projet, dans une cause qui est devenue maintenant à peu près indispensable sur tout le territoire français, même plus. Donc c'est vrai que l'écologie, c'était pour nous un plus de pouvoir le rattacher à notre projet.
Et l'écologie, c'est un engagement que vous essayez d'avoir tous les jours? Vous êtes engagé par hasard dans des assos sur Angers ou...
Personnellement, moi, je suis engagé dans une association sportive. Mais on essaye toujours de rallier de l'écologie un peu, enfin d'être le plus éco-responsable dans nos pratiques. Par exemple, moi qui suis dans une association de football, on essaie toujours de rallier ce terme éco-responsable.
Vous avez peut-être un dernier mot à ajouter pour terminer, une dernière précision sur l'événement?
Nous, on voulait mettre en avant surtout ce type d'événement qui pour nous est une preuve qu'à travers la période qui est plus que difficile, notamment pour tous les étudiants en France inscrits en école supérieure, qu'il est possible de mettre en place plein de choses et que rien n'est impossible avec bien sûr la motivation et la détermination.
Eh bien, on vous souhaite bon courage pour cet événement, on espère qu'il se déroulera bien et merci d'être passé avec nous en studio.
Merci beaucoup.
Et merci à Léo pour cette interview. Léo que l'on retrouvera dans quelques instants en studio, juste après Love is Back de Céleste. Yeah.
Love is bad. Love is bad. Love is bad. Glass full, so I did, and I saw you. I saw you gleaming across the scene, across the room. It's all in you. I need the meaning when I see it all in you. Love is bad. Love is bad.
Retour dans la Covidienne et on accueille avant de terminer Léo qui revient pour vous sur les origines des récents troubles qui reviennent en Irlande du Nord.
Bonsoir à toutes et tous. C'est l'une des angoisses qui a pointé le bout de son nez dès le mois de juin 2016, au moment où les Britanniques votaient par référendum la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne, à savoir le retour d'une frontière fermée entre l'Irlande du Nord et sa voisine, la République d'Irlande. Une angoisse qui s'est traduite dans les négociations de l'accord, bien évidemment. Finalement, l'Irlande est toujours traitée comme un pays membre du marché unique. Les marchandises qui y sont produites circulent dans l'Union quasiment sans contrôle, et à l'inverse, les produits qui entrent dans le marché britannique sont effectivement contrôlés, mais pas à la frontière terrestre entre les deux Irlandes. Mais ces derniers jours, les braises des conflits nord-irlandais se sont partiellement rallumées. Faisons un petit retour en arrière pour bien comprendre de quoi il s'agit. Nous sommes au XVIe siècle, moment où l'Angleterre protestante colonise l'Irlande voisine catholique. Pendant 5 siècles, les autorités anglaises n'accordent que très peu d'attention aux populations irlandaises. Et c'est surtout au XXe siècle que les lignes bougent. En 1916, alors que l'Angleterre lutte dans la Première Guerre mondiale, les Irlandais se soulèvent. C'est l'insurrection de Pâques. Puis la guerre entre 1919 et 1921, année où un accord est trouvé. L'Irlande est alors divisée en deux territoires. Au sud, la future République d'Irlande, catholique, et au nord, six comtés forment l'Irlande du Nord, majoritairement protestante, mais les catholiques forment une importante minorité. Le Nord ne se stabilise pas pour autant. Entre d'un côté, les nationalistes catholiques favorables à une réunification irlandaise, et de l'autre, des loyalistes protestants attachés à leur appartenance au Royaume-Uni. Les premiers sont mis de côté. Les autorités leur accordent moins de logements sociaux et leur vote compte moins. En effet, les riches peuvent voter plusieurs fois lors d'un même scrutin électoral, et la plupart des riches sont protestants. Bon, c'est surtout entre 1968 et 1998 que la poudrière irlandaise explose de nouveau. C'est la période dite des troubles. À la suite d'une protestation pacifique des catholiques en Irlande du Nord contre les inégalités, certains protestants et l'armée répondent par la violence. Des groupes paramilitaires se forment alors des deux côtés. Les catholiques s'organisent politiquement à travers le Sinn Féin, l'IRA, armée irlandaise républicaine, et l'IRA provisoire, une branche plus agressive. Si le but initial est la défense des quartiers catholiques de la capitale nord-irlandaise, Belfast, l'IRA provisoire sort l'artillerie lourde et commet des assassinats et attentats à la bombe. L'armée est alors déployée dans la région, et les événements sanglants se succèdent. Le 30 janvier 1972, l'armée britannique tire sur les manifestants catholiques, 14 morts. Certains militants, emprisonnés, se lancent dans des grèves de la faim. Ils trouveront la mort face à la froideur de la première ministre britannique de l'époque, la Dame de Fer, Margaret Thatcher. L'IRA s'exporte en Angleterre et frappe Brighton, Londres, Manchester ou encore Warrington. C'est l'arrivée de Tony Blair aux affaires en 1998 qui change la donne. Les troubles semblent se résoudre à travers l'accord du Vendredi Saint du 10 avril 1998. Bilan des troubles, 3500 morts, 50 000 blessés. Peut-on être surpris, compte tenu de ces éléments, que les tensions se ravivent aujourd'hui ? D'autant que le paysage nord-irlandais est imprégné de ces divisions. Entre les fresques mémorielles à Belfast, les quartiers presque exclusivement catholiques ou protestants, les murs fortifiés, difficile de ne pas vivre dans la peur et les souvenirs douloureux du passé. Les appels au calme des gouvernements britanniques et irlandais ne calment pas les émeutes actuelles entre catholiques, protestants, la police et bientôt l'armée. L'un des points les plus inquiétants est la présence d'adolescents dans les émeutiers. Donc, des gamins nés après les troubles, mais qui montrent que les plaies de l'Irlande du Nord sont encore à vif. J'adore la ballade nord-irlandaise de Renaud, Sunday Bloody Sunday de U2 et Zombie des Cranberries, qui font tous référence au conflit. Néanmoins, je me passerai volontiers d'un nouveau titre hommage dans ma playlist.
Merci Léo pour ces explications. On te retrouvera très prochainement. Il va être contre nous l'heure de nous quitter. Ce soir, vous retrouvez vos émissions du mardi 36-15 Chill Out et Electric Troubles. On se retrouve quant à nous demain soir, non pas pour une Covidienne, mais pour le deuxième épisode de Canal Citoyen. Vous retrouverez eh bien, dans notre studio Nicolas Dufetel, adjoint à la culture et au patrimoine, qui répondra aux questions que vous nous avez posé en amont. Voilà, on vous dit à demain. D'ici là, très bonne soirée à toutes et à tous sur les ondes de Radio Campus.